Imaginons un instant la situation suivante. Une personne souffre d'une pathologie vraiment grave, genre une maladie qui menace chaque aspect de son existence.
Ouais, un scénario catastrophe.
Voilà. Et elle décide de traverser le monde, de consulter les plus grands spécialistes, et elle finit par trouver le seul chirurgien capable de la sauver. Ce médecin exceptionnel lui rédige une ordonnance infaillible, tu vois, un protocole ultra précis.
Et là, j'imagine que ça dérape.
Exactement. Parce qu'une fois rentrée chez elle, cette personne utilise l'ordonnance comme marque-page pour son roman du soir et elle empile les boîtes de médicaments sur sa table de chevet sans jamais les ouvrir.
C'est complètement absurde. C'est presque comique tellement c'est irrationnel en fait.
C'est clair. Et pourtant, selon les textes bouddhistes anciens qu'on a sur notre table de travail pour cette nouvelle plongée en profondeur, c'est très exactement la façon dont la grande majorité des humains traitent leur propre esprit face aux enseignements spirituels.
Mais c'est une métaphore d'une précision redoutable, tu sais, et ça nous plonge directement dans le vif du sujet de notre exploration.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on poursuit vraiment l'étude minutieuse du premier chapitre d'un texte fondamental, Le chemin de la grande perfection, qui a été rédigé par le maître tibétain Patrul Rinpoché. Et ce chapitre entier, il est consacré à une action qui pourrait sembler super banale.
Juste la manière d'écouter, c'est ça?
Exactement, la manière d'écouter un enseignement. Lors de nos précédentes discussions sur cette œuvre, on a exploré l'attitude mentale de base, puis on a longuement décortiqué les comportements néfastes qu'il fallait absolument éviter.
Les fameux trucs à ne pas faire.
Ouais. Donc l'objectif aujourd'hui, pour conclure ce chapitre de façon rigoureuse, c'est de se concentrer strictement sur le côté positif. Ce qu'il faut adopter, quoi. Autrement dit, quelle est la manière juste, physiquement et mentalement, de se comporter quand on reçoit le dharma?
La connaissance spirituelle, en gros. Et pour bâtir ce véritable mode d'emploi de la réceptivité, l'auteur définit trois axes très clairs. On va explorer d'abord ce qu'il appelle les quatre représentations, ensuite la mise en pratique des six vertus transcendantes, et enfin l'incarnation du respect à travers d'autres comportements physiques bien spécifiques.
Un programme chargé, ouais.
Carrément. Mais on va commencer par le commencement, parce que le texte s'ouvre sur un diagnostic radical, en fait.
Absolument. Le texte introduit cette notion en s'appuyant sur une citation fondatrice tirée du Sutra en forme d'arbre. Je la cite rigoureusement, parce que chaque mot compte.
Vas-y, je t'écoute.
Noble disciple, considère que tu es un malade, que le dharma est un médecin, que ton ami de bien est un médecin habile, et qu'une pratique assidue t'apportera la guérison.
D'accord, alors arrêtons-nous 2 secondes sur ce diagnostic clinique. Le texte affirme d'emblée que nous sommes les malades. Mais de quoi on souffre exactement? Parce qu'il est fait mention des trois poisons de l'esprit et des trois souffrances qui nous noient dans l'océan du samsara.
Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de termes techniques.
Avant d'aller plus loin, il faut qu'on clarifie un peu ce jargon. Le samsara, les trois poisons, concrètement, de quoi on parle?
C'est essentiel de le définir, t'as raison. Dans cette philosophie, le samsara, c'est pas un lieu physique, c'est plutôt le cycle conditionné de l'existence. Un état d'insatisfaction chronique, tu vois, fait de renaissance et dicté par nos actions passées, notre karma, quoi.
Ok, la roue qui tourne sans fin.
C'est ça. Et ce qui alimente ce cycle, ce qui constitue notre maladie fondamentale, ce sont ces trois fameux poisons. L'ignorance fondamentale de la réalité, d'abord. Ensuite, l'attachement compulsif à ce qui nous plaît. Et enfin, l'aversion ou la haine pour ce qui nous déplaît.
Donc on est tout le temps ballotté entre ces trois trucs.
Exactement, et ces poisons génèrent des souffrances permanentes. Donc l'enseignement spirituel, le dharma, c'est pas juste une petite philosophie abstraite pour faire joli dans un salon. C'est littéralement l'antidote chimique, le remède spécifique contre ces poisons-là.
Ce qui nous ramène totalement à notre métaphore du début, hein. Le maître spirituel, l'ami de bien, comme ils disent, c'est le médecin habile.
C'est le seul qui a l'expérience clinique pour diagnostiquer quel poison nous ronge à un instant T.
Mais si le patient refuse de prendre le remède, c'est-à-dire de pratiquer concrètement les instructions, le médecin devient complètement impuissant.
Ben oui, il peut pas forcer la personne.
Empiler les médicaments spirituels sur sa table de chevet, genre en lisant des dizaines de livres de développement personnel sans jamais rien changer à sa vie, ça n'a jamais guéri personne.
C'est vraiment le cœur du problème. Le texte souligne que suivre un maître authentique, ça implique une véritable obéissance à ses prescriptions. Ne pas pratiquer, c'est purement et simplement refuser l'aide.
Et ça casse un peu un mythe, non?
Ça répond à une illusion super répandue, oui, l'espoir passif. L'idée de se dire que la seule compassion d'un grand maître suffira à nous sauver, même si on continue d'agir n'importe comment. L'auteur utilise d'ailleurs une image très cash pour détruire cette illusion.
Laquelle ?
On s'imagine parfois que la compassion du maître va nous propulser vers des états supérieurs, je cite, « comme on lance un caillou ».
Genre, on est un caillou inerte et boum, on est jeté au paradis.
C'est une décharge de responsabilité totale, en fait. On veut juste que quelqu'un d'autre fasse le sale boulot intérieur à notre place. Exactement. Et le texte recadre hyper sèchement cette fausse compassion. La véritable compassion du médecin, c'est de te donner le bon diagnostic et les instructions claires pour guérir. C'est pas de boire le sirop à ta place.
Ah oui, c'est logique.
La compassion du maître, c'est d'ouvrir les yeux du disciple sur ce qu'il faut faire et éviter. Le premier pas sur le chemin, après, bah, il dépend de l'individu.
Ce qui soulève inévitablement la question du timing, du quand, parce que si le travail repose sur nos propres épaules, on a tous cette fâcheuse tendance à se dire « Allez, je pratiquerai quand j'aurai le temps, quand je serai à la retraite, ou au pire du pire, juste avant de mourir, tu vois ?»
Ah, le classique du lit de mort.
Bah oui, il y a cette croyance populaire qu'à la dernière seconde, il suffit d'une petite prière ou d'un rituel et paf, tout s'arrange.
Sauf que Patril Rinpoché attaque ça frontalement. Il attribue cette idée aux faiseurs de cérémonies de village, pour reprendre ses termes. Penser qu'on peut diriger sa destinée au moment de la mort aussi facilement qu'on dirige un cheval par la bride, c'est une erreur fatale, selon lui.
Parce que la mort, c'est pas exactement un moment de grand calme.
Pas du tout. Le texte décrit le processus de la mort non pas comme un fondu au noir super paisible, mais comme un chaos absolu terrifiant. Sans préparation de son vivant, l'esprit est projeté dans le bardeau.
L'état intermédiaire entre la mort et la renaissance, c'est ça?
C'est ça, et l'auteur décrit ça comme un ouragan implacable de karma qui nous pousse avec des ténèbres insondables et un sentier ultra périlleux où des hallucinations prennent la forme des hommes de main de la mort et hurlent des trucs comme « Tuez-le! Frappez-le !»
Waouh! L'imagerie est d'une violence inouïe. Pour donner un équivalent un peu plus moderne, c'est comme espérer apprendre à nager alors qu'on vient d'être jeté par-dessus bord au beau milieu de l'océan en pleine tempête de nuit.
C'est clair.
C'est pas du tout le moment de sortir le manuel de natation pour lire la page 1, quoi. La panique empêche toute lucidité.
C'est une excellente analogie, tu vois. L'esprit non entraîné est littéralement paralysé par la peur. C'est pour ça que l'auteur cite le grand de Diana pour clore ce débat. Il dit « Trop tard, l'initiation sur la carte funèbre, la conscience, un chien fou erre dans le bardeau, penser au paradis lui est bien difficile. »
C'est très imagé.
La véritable ligne de démarcation entre l'ascension et la chute, elle se trouve pas sur le lit de mort, elle se trouve maintenant.
Donc, l'urgence est totale. C'est dans cette existence humaine, pendant qu'on a encore le contrôle de notre corps et de notre attention, que nos actes ont la puissance de changer la donne.
C'est exactement ça.
Mais là où l'esprit humain est fascinant ou désespérant, ça dépend comment on le voit, c'est dans sa capacité à pervertir même les choses les plus pures. Si le dharma est un remède si précieux, le texte prévient qu'il peut carrément être détourné. C'est ce qu'il appelle les quatre notions perverses, non ?
Oui, et pour illustrer cette perversion, le texte s'appuie sur une citation très puissante tirée du trésor de précieuses qualités. Je te la lis.
Je t'écoute.
Les humains dont le fond est mauvais et perfide s'approchent du maître comme d'un cerf musqué et, obtenant le musc du sublime dharma, au comble de la joie, bafouent le samaya.
Attends, une seconde. Avant de décortiquer cette métaphore animale avec le cerf musqué, il y a un terme hyper spécifique à la fin, le samaya. Pour bien mesurer la gravité du truc, c'est quoi exactement ce samaya?
C'est un terme fondamental dans cette tradition. Le samaya, ça désigne le lien sacré, l'engagement spirituel et éthique, indéfectible, qui unit le disciple, le maître et la pratique elle-même.
Donc, bafouer le samaya, c'est...
C'est rompre ce contrat de confiance profond. C'est utiliser des outils spirituels puissants, tout en trahissant totalement leur but éthique.
C'est super éclairant, parce que du coup, ça donne tout son sens à l'image du cerf musqué. Dans cette vision perverse, l'individu ne voit plus le maître comme un médecin qui soigne, mais comme une proie à chasser.
Une simple ressource, ouais.
Le dharma n'est plus un remède. Il devient le musc, cette substance rare qu'on extrait uniquement pour son propre prestige. Et la pratique, bah, ça devient carrément l'arme du braconnier.
C'est fou quand on y pense.
Si on transpose ça à notre époque, c'est un peu le syndrome de ceux qui s'approprient des concepts spirituels ou de pleine conscience dans le seul but de gonfler leur ego, de manipuler les autres ou de faire du business sans aucune éthique derrière.
C'est la perversion absolue de la relation pédagogique. Le texte est sans appel là-dessus. Utiliser la connaissance spirituelle pour accumuler des actes néfastes, ça revient à s'attacher soi-même une lourde pierre au cou. Une pierre qui nous entraînera directement au fond des pires états d'existence. En gros, le remède est devenu un poison mortel.
C'est radical. Alors, si les enjeux sont si colossaux, si écouter un enseignement exige de se prémunir contre ça et d'agir avec l'urgence d'un malade en phase critique, comment cette disposition intérieure se traduit-elle physiquement, dans la pièce même où on écoute l'enseignement ?
Eh bien, ça nous amène directement au deuxième grand axe de l'ouvrage, les 6 vertus transcendantes.
Comment l'auteur traduit des concepts aussi vastes en actions pratiques, du coup ?
Il procède à une codification assez fascinante du comportement en citant le tantra de la compréhension effective des instructions sur toutes les pratiques du dharma.
Ok.
Il énumère les 6 vertus comme ça. Offrir excellemment des fleurs et des coussins, préparer bien l'endroit et se discipliner, ne jamais faire de mal au moindre des insectes, avoir envers son maître une foi véritable, écouter ce qu'il dit sans jamais se distraire et poser des questions pour dissiper ses doutes.
C'est super précis.
Et il conclut, voilà de l'auditeur les 6 vertus transcendantes.
Ce qui est frappant d'entrée de jeu, c'est que la première vertu, la générosité, elle n'est pas décrite comme un don monétaire massif, genre on ne fait pas un gros chèque. L'auteur parle d'offrir des fleurs, de préparer le siège du maître, de disposer des coussins. C'est presque un don d'espace, en fait.
C'est tout à fait ça. Psychologiquement, créer un environnement accueillant, c'est déjà préparer son propre esprit à recevoir. La générosité matérielle, ici, elle devient le support physique de l'ouverture intellectuelle.
Logique.
Et ça s'enchaîne hyper logiquement avec la deuxième vertu, qui est la discipline. Selon Patrul Rinpoché, la discipline de l'auditeur, ça consiste à balayer méticuleusement l'endroit et à l'asperger d'eau pour éviter que la poussière ne se soulève.
Alors là, je vais me faire l'avocat du diable un instant. Balayer le sol et passer la serpillière, honnêtement, ça ressemble davantage à une corvée de ménage domestique qu'à une grande quête de l'éveil spirituel, non ? En quoi passer le balai discipline l'esprit ?
C'est une super question et ça touche à ce qu'on appelle la cognition incarnée, tu vois.
C'est-à-dire ?
Le texte suggère que le chaos extérieur alimente le bruit mental intérieur. En nettoyant physiquement la pièce, en fait, on réduit la charge cognitive. On accomplit un acte de purification qui est à la fois symbolique et réel, qui ordonne nos voies neuronales. L'ordre extérieur dicte l'apaisement intérieur. Si la pièce est pleine de poussière, l'esprit restera plein de pensées parasites.
Ah, c'est une approche physiologique super fine, finalement. Ce qui nous amène à la troisième vertu, la patience. Le texte cite le fait de ne pas faire de mal au moindre insecte et de supporter les extrêmes de chaleur et de froid, ainsi que les difficultés.
Ouais, l'inconfort, quoi.
Si on prend un scénario moderne, on est dans une salle de conférence, le chauffage est en panne, il fait hyper froid, et en plus, il y a un moustique qui nous tourne autour.
L'enfer.
Voilà. L'instinct de base, c'est l'agacement. On va se plaindre à son voisin ou on va essayer d'écraser l'insecte. Mais ici, la patience demande d'utiliser cet inconfort momentané, non pas comme une nuisance, mais comme un outil de travail. Un outil pour muscler sa propre résilience.
Exactement. On apprend à ne pas réagir frénétiquement à chaque stimulus. Tout le propos, c'est vraiment de déjouer nos réactions automatiques. Tolérer l'inconfort, en fait, ça prépare le terrain pour la quatrième vertu.
Qui est ?
Le courage. Et là, le texte ne parle pas d'un courage héroïque sur un champ de bataille avec une épée. Il parle de rejeter joyeusement les vues erronées avec foi.
Ah oui, c'est beaucoup plus interne.
Complètement. Abandonner ses préjugés, accepter que nos certitudes les plus ancrées puissent être totalement fausses, ça exige une immense bravoure psychologique. C'est une forme de vulnérabilité intellectuelle que très peu de gens acceptent de vivre au final.
Que c'est cette vulnérabilité qui nous permet d'accéder à la cinquième vertu, j'imagine. La concentration. Écouter les paroles sans jamais se distraire.
C'est ça.
Surtout dans notre économie de l'attention actuelle où le moindre bip de téléphone fracture notre esprit en deux. Maintenir une concentration totale sur un discours complexe, aujourd'hui, c'est peut-être devenu la discipline la plus ardue qui soit.
C'est clair que c'est le défi central de notre époque. Mais si on arrive à maintenir cette concentration, on atteint alors le sommet du processus, la sixième vertu transcendante, la connaissance.
Et là, il y a un détail hyper important.
Oui, le texte apporte une précision fondamentale. Acquérir la connaissance, ça nécessite de poser des questions. Poser des questions pour résoudre ses hésitations et couper court à toute invention de notre propre esprit.
Je trouve ce dernier point absolument génial. Parce que ça pulvérise complètement le stéréotype occidental de la philosophie orientale, tu sais, qui voudrait que le disciple soit juste une éponge inerte, silencieuse et totalement soumise.
Ah oui, le cliché du sage qui parle et de l'élève qui opine du chef sans rien dire.
Voilà. Alors qu'ici, la véritable écoute est profondément active. Elle exige un esprit critique acéré. Poser des questions pour dissiper les doutes, c'est refuser de rester dans l'approximation.
C'est la validation finale de l'apprentissage. Pour reprendre notre analogie médicale du début, le médecin a expliqué l'ordonnance, mais le patient a le devoir absolu de l'interroger s'il ne comprend pas le dosage ou les effets secondaires. L'assimilation du dharma, c'est jamais un gavage, c'est un dialogue clarificateur.
Bon, donc on a diagnostiqué l'urgence médicale, on a vu comment stériliser la pièce et l'esprit grâce aux six vertus, mais l'auteur descend encore d'un cran dans les détails pratiques, il me semble.
Oui, il va vraiment dans la granularité.
Parce que les vertus intérieures, elles imposent inévitablement un langage corporel. Ce qui nous pousse vers le troisième et dernier axe du texte, les autres comportements. Quels sont les interdits physiques spécifiques quand on s'assoit pour écouter cet enseignement ?
L'auteur se réfère directement au Vinaya, qui est le grand recueil de disciplines monastiques. Il s'en sert pour lister les comportements qui, selon lui, bloquent littéralement la transmission.
Et il dit quoi le Vinaya ?
Je te cite le texte. N'enseignez pas à ceux qui n'ont pas de respect, qui se couvrent le chef bien qu'en bonne santé, qui portent un bâton, une arme ou une ombrelle, ou ont la tête enturbanée.
Encore une fois, permets-moi d'être un peu sceptique. D'un point de vue contemporain, refuser d'enseigner à quelqu'un juste parce qu'il porte un chapeau ou qu'il tient un parapluie, ça sonne comme un protocole de cours hyper archaïque et rigide. En quoi le fait d'avoir un tissu sur la tête, en fait, m'empêche d'écouter avec mon cerveau ?
Je comprends la réaction, mais il faut dépasser l'aspect historique pour comprendre la fonction somatique de ces règles.
Vas-y, explique-moi.
Tenir une arme, s'abriter sous une ombrelle ou garder sa tête couverte par un turban, ce sont physiquement des postures de défense, des postures de repli sur soi, ou même l'indication d'un départ imminent, genre « je garde mon manteau parce que je vais y aller ».
Ah, je vois.
Encombrer son corps de ces objets, ça signale à notre cerveau reptilien qu'on est sur nos gardes, qu'on se protège du monde extérieur. Or, pour recevoir un enseignement qui vise justement à déconstruire l'ego, il faut abandonner toutes ses armures.
C'est super fascinant quand on traduit ça dans notre quotidien. Conserver une ombrelle ou un chapeau, c'est l'équivalent moderne de garder un écouteur sans fil dans une oreille pendant que quelqu'un nous parle d'un sujet grave.
Ou de croiser les bras en s'adossant au fond de sa chaise.
Exactement. C'est adopter un langage corporel fermé qui hurle à l'autre « je ne suis pas pleinement ici ». On érige une barricade physique qui étouffe totalement notre réceptivité psychologique.
C'est exactement le mécanisme qui est visé par le texte. L'encombrement physique manifeste un encombrement mental.
Logique implacable.
Et pour couronner cette analyse de l'attitude corporelle, l'auteur s'appuie sur une ultime citation. Elle est magnifique, elle est tirée des contes, des jakaka, et elle dresse le portrait de la posture idéale.
Je suis tout ouïe.
Pour écouter l'enseignement, le siège le plus bas prenez, soyez vraiment discipliné, ayez le regard plein de joie, buvez les mots comme un nectar, soyez toujours bien concentré.
Prendre le siège le plus bas, ça pourrait paraître abaissant pour certains.
Justement, non. Prendre le siège le plus bas, c'est pas une humiliation. C'est reconnaître une loi de la physique élémentaire. Tu vois ? L'eau de la connaissance ne s'écoule jamais vers le haut. Il faut se placer en contrebas, dans une humilité sincère, pour pouvoir la recueillir.
Buvez les mots comme un nectar. L'image est d'une poésie absolue, c'est vrai. Et elle clôture de façon magistrale l'exploration de ce chapitre par Patrul Rinpoché.
Tout à fait.
Si on synthétise fidèlement la conclusion de l'auteur, le message est limpide. Écouter un enseignement spirituel, ça n'a absolument rien d'un acte neutre, ni d'un simple ajout à notre petite culture générale. Ça réclame un engagement féroce et total de l'être.
C'est le résumé parfait de l'édifice qu'on a parcouru au fil de ces discussions. Le cheminement, il commence profondément à l'intérieur, par l'émergence de l'esprit d'éveil. Ensuite, il impose le rejet explicite de tous les comportements néfastes.
Et enfin, l'étape du jour.
Voilà. Il s'épanouit par la culture méticuleuse des comportements justes, l'urgence des représentations face à la maladie, le raffinement des fameuses six vertus transcendantes et l'humilité totale de l'attitude physique.
Le dharma se révèle alors non pas comme un gros amas de données intellectuelles inertes, tu vois, mais comme une pratique hyper vivante, un remède dynamique dont l'unique objectif, c'est de mettre un terme à la souffrance.
Mais, et le texte insiste lourdement là-dessus, La guérison n'est possible qu'à la condition sine qua non de s'engager, d'obéir aux instructions et d'ingérer activement le traitement. Sans quoi, la belle ordonnance restera à jamais un simple bout de papier coincé dans un livre.
Et cette exigence radicale, posée par des textes aussi anciens, elle nous laisse avec une interrogation qu'on pourrait trouver profondément inconfortable pour notre propre époque.
Ah oui, ça nous renvoie à notre propre miroir.
Complètement. Si écouter véritablement, dans le but de soigner notre maladie existentielle, ça réclame une telle préparation, une telle purification du corps et de l'esprit, bah que vaut notre écoute quotidienne ?
C'est la vraie question. Quand on prête l'oreille à nos proches, par exemple, ou quand on consomme l'actualité en boucle, est-ce qu'on est dans cette réceptivité totale, ou est-ce qu'on est piégé dans une audition mécanique, superficielle, qui laisse notre propre souffrance et celle du monde totalement intactes ?
Ça donne le vertige. Que se passerait-il au fond si on appliquait ne serait-ce qu'une toute petite fraction de cette écoute absolue, de ce nectar dont parlent les textes, à chaque interaction de notre vie ? C'est sur cette réflexion qu'on va vous laisser méditer aujourd'hui.